appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Dans le cadre de la réalisation des travaux du programme des 100 jours initié par le président Félix Tshisekedi, une année après avoir lancé ses travaux et devant le retard enregistré, le gouvernement a débloqué au mois de février dernier des fonds supplémentaires pour la poursuite et la finalisation de ses travaux, en particulier pour la construction des sauts de moutons dans la ville de Kinshasa. Certains observateurs estiment qu'il serait mieux qu'une inspection régulière soit organisée afin de stimuler les entreprises qui effectuent ces travaux de les finir comme prévu avant la fin du mois de juin prochain. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis à nom de par Polydor Basunga. Pierrot et la Mégis, c'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter et Jir Lungembo assure la réalisation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Plusieurs cas de retard ont été enregistrés dans les travaux de 100 jours initiés par le chef de l'État dans le volet infrastructure à travers le pays, à Kinshasa particulièrement, avec les travaux de construction des dossiers des moutons. Et rappelons qu'au mois de février dernier, le gouvernement a dû débourser de l'argent pour permettre à ces entreprises de poursuivre les travaux. Mais pourquoi autant de retards enregistrés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à finaliser ces travaux et permettre, surtout par exemple à Kinshasa, à la population de pouvoir circuler qu'il est librement sur les grands axes routiers? C'est la question au centre de notre échange dans Parole aux auditeurs. Vous êtes nombreux à avoir commenté les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais vous pouvez encore continuer à commenter les sujets. Nous sommes ensemble avec vous et en direct, vous pouvez intervenir en nous appelant au 081 890 49 69. Israël Moutala, merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes journaliste et directeur général du site 7sur7.cd. Merci d'être avec nous au bout du fil. Bonjour. Israël, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, allô.
Oui, Israël.
Bonjour, Pierrot et la Mégie.
Voilà, on commente avec vous ces sujets, mais d'abord on fait le point. On sait qu'il y a eu un vaste programme lancé par le chef de l'État dans le cadre de travaux des 100 jours dans les volets infrastructure. Alors, au niveau, comment expliquez-vous d'abord le retard enregistré dans l'exécution de ces différents travaux?
Bon, pour moi, le retard s'explique globalement à cause de deux facteurs, mais le premier facteur le plus important dans le retard, c'est notamment le retard dû au décaissement de l'argent. Donc, l'État avait connu des problèmes de trésorerie et ne donnait pas suffisamment de moyens à ses régies, notamment à l'office de la voirie et de drainage, le VD, et ensuite à l'office de route. Donc c'est ce qui a conduit à ce retard-là, parce que ce sont ces offices là-bas qui sont les maîtres d'ouvrage de l'aider, et ce sont eux à qui l'État remettait l'argent. Eux, à leur tour, remettaient ces sommes d'argent là-bas, moins après une signature d'un contrat aux sous-traitants, qui sont notamment Safricas. Et donc, la première cause de retard pris dans l'érection des sauts de moutons, c'est un retard financier dû au décaissement. Et on comprend l'État qui est confronté à plusieurs difficultés, qui mène une guerre contre les groupes armés à l'Est, qui finance la gratuité de l'enseignement, qui doit piloter un programme ambitieux test avec le FMI, qui a demandé certaines provisions en dollars. Bref, les frais de fonctionnement de l'État, il y a tout ça qui a fait qu'à un moment, le financement se sont taris et on a connu le retard.
Mais est-ce qu'on peut dire...
La deuxième chose, j'aimerais terminer.
Oui.
Par exemple, pour le saut de mouton, du pont Cabu, ce retard là-bas est dû au fait que on avait demandé à l'OVD avait demandé à Safricas notamment de suspendre les travaux là-bas à cause justement des bouchons qui pouvaient en résulter. vous voyez que c'était un axe un peu compliqué, parce qu'en amont, il y avait un autre... Il y avait un autre saut de mouton qui est celui de la RTNC. Et encore plus loin, il y avait sur le même axe un saut de mouton au niveau du croisement 24 novembre, de l'avenue 24 novembre et le boulevard. Tout ça a conduit à des retards dans l'érection de saut de mouton. Donc pour moi, il y a deux raisons principales. Tarissement des financements de voies publiques et interdiction par l'OVD. Suspension par l'OVD pour des raisons de bouchons, de fluidité de circulation, pour certaines, pour les sous-mouvements de UPEN notamment et de Pont Cabu. Voilà.
Alors, on sait que le programme a été lancé hein, alors qu'il n'y avait pas, le Fédan Tshisekedi n'avait pas encore son gouvernement. C'était avec le gouvernement intérimaire dirigé par Bruno Tshibala. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait déjà un problème dans la définition de la stratégie de ce plan de 100 jours et dans ces différents travaux d'infrastructure avec les sauts des moutons? Y a-t-il un problème d'élaboration des stratégies en amont?
Non, c'est pas une question de stratégie. D'abord, il faut saluer ici... la volonté du président de la République de fluidifier la circulation. Les bouchons à Kinshasa nous font perdre beaucoup d'argent, nous font perdre beaucoup d'énergie, les bouchons nous font perdre de poids à notre économie. Donc, il faudrait passer plus ou moins de temps sur nos routes dans les bouchons. Et donc, il faut fluidifier la circulation. Donc, le mouvement des personnes et des biens doit être fluidifié, d'être plus rapide, plus intelligent. Et ça participe à cette idée-là que le président de la République a résolu justement de résoudre cette question-là en mettant fin à certains points de friction, à certains points de conflit de circulation. Donc c'est une initiative à saluer. Il y a aussi à saluer que nous avons de l'expertise locale sur place qui peuvent justement ériger de tels ouvrages. Donc il n'a jamais été érigé de tels ouvrages, donc c'est une première. Donc c'est une première qu'il faut capitaliser. Il faut saluer justement les entreprises qui sont à même d'ériger de tels ouvrages parce que ce sont des ouvrages complexes. Encore une fois, c'est à capitaliser. Et donc, la principale difficulté ne réside pas dans la stratégie. Non. Le gouvernement, c'est vrai peut-être qu'il y avait un problème de planification en termes de ressources. Donc, le gouvernement voulait aller très vite. On a appelé ça un programme d'urgence de 100 jours et il fallait que les décaissements soient aussi conséquents en termes de hauteur de l'enveloppe et en termes aussi de rapidité. Ce qui n'a pas suivi. Et ça n'a pas été suivi à cause, notamment, on a dit, du contexte. On a un nouveau pouvoir, il y avait des frais importants, des frais d'installation, il y a eu tout ce qui s'en est suivi, le train de vue de l'État et tout ça, la gratuité de l'enseignement et d'autres plus. Voilà. Il y a eu un problème, clairement, en termes peut-être de planification de ressources à allouer au saut du mouton. Et dès lors que la question du financement a été résolue, par exemple, on a vu que certaines réunions interministérielles, ou même au sommet de l'État, présidé par le chef de l'État lui-même, il a dit que chaque semaine, on va décaisser 3,5 millions de dollars chaque semaine pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Et vous voyez que sur tous les chantiers, les travaux avancent très rapidement et que les délais seront sans doute tenus si chaque semaine l'argent est décaissé. Donc on comprend directement avec ça que le problème résidait au niveau du financement et non ailleurs.
Alors, mais quand on regarde aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui détenues hein, autour de cette question, que ce soit le DG de l'Office des routes, le DG de Sacficas et même le DG de l'entreprise qui devait exécuter les travaux dans le cadre de logements sociaux. Et d'un côté, vous estimez que c'est un problème de financement, une planification des financements, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a eu quand même un problème d'opacité autour de la gestion de ces fonds pour qu'on ait des gens qui sont détenus autour de cette question?
Bon, quelle est la question d'opacité? On va nous dire si tu veux l'opacité. L'office de route, tout comme l'OVD, ont signé des contrats. Ont signé des contrats avec les sous-traitants qui sont CREC-7, qui sont Safricas. Et donc, c'est à partir de là, quelle est la clause du contrat qui a été violée ici? Parce que il y a un cadre contractuel qui lie l'État et les sous-traitants via justement ces offices. Donc la question de droit ici doit se poser, quelle est la disposition contractuelle qui a été violée? Parce que les travaux là-bas ne s'exécutent pas ex nihilo. Les travaux s'exécutent dans le cadre d'un contrat. On ne peut pas parler d'opacité, on ne peut pas parler de détournement pour des sociétés privées qui ne sont que des sous-traitants. Et donc même par rapport à ça, il faut dire que, comme on l'a dit d'ailleurs, que la construction des sauts de mouton, si c'est une première dans notre pays, il n'y en a pas. Ça veut dire que le matériel, tout le matériel n'a pas été produit sur place. Il fallait les importer, notamment en France ou en Afrique du Sud. Donc le délai de livraison, le délai d'abord pour passer la commande, le délai d'être une usine puisse produire les matériels commandés, le délai de livraison, le fret et tout ça, ça prend du temps. Donc ça ne pouvait pas se faire à si peu de temps. Il y avait des contraintes de temps, il y avait des contraintes d'usine dont il fallait tenir compte. Et même tout ça, c'était prévu justement dans le cadre des conventions. Donc voilà, les conventions que nous avons, par exemple, scrutées de près, disent clairement que voilà, s'il y a un problème, une difficulté d'interprétation, s'il y a une difficulté dans l'exécution de ce contrat, les contrats d'érection de sauts de mouton, les deux parties, ça veut dire ici, en l'occurrence, par exemple, on peut prendre OVB et Safritas, doivent d'abord trouver une solution amiable. S'il n'y a pas de solution amiable, ils doivent aller à la cour d'arbitrage selon le droit WADA, et ensuite, la procédure judiciaire n'intervient qu'en dernier recours. Voilà le cadre contractuel. Mais ici, on parle d'opacité, il n'y a pas d'opacité du tout, parce que même les comptes sont là, les mouvements de comptes sont là, les matériels commandés sont là, dans les entrepôts, et ensuite, tous les rapports sont là. Et donc, même les ministres eux-mêmes, les conseils des ministres, ils ont dit clairement autour du Premier ministre et autour du Président de la République que les travaux se sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus de financement. Ils l'ont situé à un moment à 40%, ils l'ont situé à un autre moment à 55%, ça dépendait des périodes, mais c'était le niveau de financement. On ne peut pas demander des ouvrages terminés à 100% avec un financement de 55%. Mmh. Non, c'est pas possible. Donc, comme je le dis encore une fois, le parc doit mener des investigations, mais comme on ne se sera jamais de le rappeler, le parquet mène des investigations à charge et à décharge. Et incarcérer des gens doit être l'ultime recours, surtout que pour ces gens-là-bas qui sont incarcérés, il n'y a pas de crainte de fuite. Surtout que pour ces gens-là-bas, ils ont leurs activités économiques en RDC. C'est des hommes d'affaires qui ont pignon sur rue, c'est des hommes d'affaires qui emploient des milliers de Congolais, c'est des hommes d'affaires qui créent de la richesse. Donc, il n'y a pas de crainte de fuite. Et donc, moi, je pense que pour des raisons de transparence, pour des raisons d'efficacité, on peut justement mener des investigations sans justement restreindre la liberté des uns et des autres.
On revient à vous, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous restons ici à Kinshasa avec vous, Gabi. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
On vous écoute, Gabi.
Ah, ça va, j'ai suivi attentivement cette affaire des constructions des sauts de mouton. C'était l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, pour fluidifier la circulation à Kinshasa, parce que lors de son arrivée au pouvoir, il avait constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages sur les principales artères de la capitale. Il a tenté de réhabiliter certaines avenues, mais sur le boulevard Lumumba, le boulevard le boulevard du 30 juin, il a trouvé un ancien projet d'ailleurs de construction des sauts de mouton et il a pris l'initiative d'accélérer les travaux. Et il a associé des entreprises privées parce que c'est le ministère des Travaux publics et infrastructures qui est le maître d'ouvrage. Et le maître délégué, c'est l'office de voirie et drainage qui est l'entreprise publique. Donc l'office de voirie et drainage a associé également d'autres sous-traitants, dont l'entreprise Safekas qui a gagné un marché pour la construction des quatre sauts de mouton, celui de l'UPN, celui de Asanef sur l'avenue du 24 novembre et celui de Socimat. Donc ce sont les marchés qui ont été gagnés par ce sont des sauts de mouton qui ont été gagnés par l'entreprise Safekas. Mais l'OVD qui est l'ouvrage, qui est le maître délégué, des ouvrages qui a signé un contrat avec l'entreprise Safrikas, avait demandé à l'entreprise de ne pas construire tous les quatre sauts de mouton au même moment. sinon ça allait asphyxier la ville de Kinshasa avec les embouteillages. Déjà, quand vous regardez le trajet du centre-ville jusqu'à l'aéroport de Ndjili, nous n'avons qu'une seule voie. Et déjà, à ce niveau, quand vous avez trois sauts de moutons sur le boulevard Lumumba, du bonhomme, Kitabé, Pascal, si on allait construire encore Pont Gabi, plus celui de la Sanef et puis Mandela, ça allait rendre la circulation très compliquée, raison pour laquelle l'OVD avait demandé à Safritas de ne pas construire tous les sauts moutons au même moment. Quand cela ne tienne, l'entreprise Safritas avait déjà commencé les travaux. À partir du mois d'avril, entre le mois d'avril et le mois de mai 2019, et on a acquis pour l'argent que l'entreprise Safritas avait reçu, il a effectué des études géotechniques et des études d'impact environnemental là où il devrait construire des sauts de mouton. Il avait acheté des équipements, commandé des équipements en France et puis en Afrique du Sud pour l'exécution des travaux. Et aujourd'hui, mais il s'est passé un problème de dysfonctionnement parce qu'au départ, tu sais qu'il travaillait avec le gouvernement intérimaire de Tshibala et le directeur de cabinet du chef de l'État qui était aussi à l'œuvre. C'est un peu éclipsé lorsque on a nommé le gouvernement Ilunga Ilunkamba au mois de août 2019. En ce moment-là, le gouvernement Ilunga Ilunkamba a pris la direction des opérations en main, mais il s'est posé aussi un problème de dysfonctionnement entre les institutions de la République. Et quand vous suiviez d'ailleurs Sili Yalagouli, qui est le ministre des Finances et à l'époque, et qui disait que l'argent était suffisamment décaissé et que l'exécution des travaux n'était pas proportionnelle à l'argent décaissé par le gouvernement. Pourtant, ce n'était pas le cas parce que quand vous regardez tout l'argent, par exemple, que l'entreprise de Safritas avait reçu de la part du gouvernement, c'était pour les travaux que j'ai susmentionnés. Donc, jusque-là, il s'est posé un problème, en tout cas, de décaissement. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'arrestation du PDG David Blattner de l'entreprise de Safritas, il se pose un problème. On dit abus de confiance. Pourtant, on a dépêché les inspecteurs du bureau contrôle du bureau technique de contrôle, les inspecteurs du ministère de la Justice et qui ont allé vérifier dans ses entrepôts à Kingabwa, qui avaient constaté effectivement qu'il avait acquis du matériel. Donc, l'argent du gouvernement n'a pas suivi et régulièrement pour que l'entreprise Safritas puisse exécuter les travaux. Et cela a créé, en tout cas, du retard dans l'exécution des travaux, raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui à des embouteillages monstres.
Oui, mais là, je crois qu'il faut qu'on arrive à terminer. Alors, mais pour vous, à partir de ces moments, qu'est-ce qui doit être fait, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, pour arriver quand même à mettre fin à cela? Parce que pour ceux qui sont détenus, c'est une question de la justice. Faudra-t-il que la justice fasse son travail jusqu'à la fin pour savoir tout ça? Mais quand même, comment on peut arriver à régler cette question au jour d'aujourd'hui?
Ah oui, je comprends la situation qui est la nôtre. Le gouvernement est en difficulté. On n'a pas assez de ressources financières pour accélérer les travaux. Les entreprises dépendent de ce que le gouvernement leur doit. Donc, si le gouvernement accélère le processus du déclassement, vous allez voir que les travaux avancent. L'exemple le plus éloquent est celui du 24 novembre. Même le saut de mouton des bonhommes, même si celui-là ne concerne pas Safritas, sur 24 novembre également, sous CIMAT, vous avez vu que dès que le gouvernement a accéléré, parce que par semaine, on a au moins besoin de 2 millions de dollars américains pour permettre aux entreprises d'accélérer les travaux, dès que le gouvernement accélère, les processus de décaissement, les entreprises également sont à l'œuvre et s'activent pour faire ce travail. Donc, si le gouvernement ralentit le rythme de décaissement, les entreprises également ne sauront pas travailler parce que les entreprises doivent acquérir des équipements, des matériaux de construction, payer les personnels. Tout ça, ça demande de l'argent. Or, ils ont signé des contrats avec le gouvernement de la République qui a accepté de financer ces travaux. Et c'est vrai que le gouvernement peut demander même à certaines entreprises de préfinancer les travaux, mais on n'est plus à ce stade. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit prendre la responsabilité de financer les travaux à 100%, si le gouvernement le fait. Et vous voyez, vous constatez aujourd'hui, comme le gouvernement le fait, vous constatez aujourd'hui que les travaux avancent. notamment les sourds-moutons qui concernent Blattner sur le 24 novembre. Et sur le 24 novembre, et puis sur CIMAT. Donc les travaux s'accélèrent. Pour mettre un terme à cette situation, il faut que le gouvernement mette la main à la poche pour appuyer les entreprises.
Merci beaucoup, Gabi. On reste à Kinshasa avec vous, Maître Adrien. La responsabilité du pouvoir public, dès que l'argent est décaissé, les travaux sont en train de marcher parce que la population voudrait vraiment que de l'aéroport jusqu'en ville et tout ce qui est concerné hein, par ces embouteillages monstres que la population connaît arrive quand même à se déplacer sans problème. Maître Adrien, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute, maître.
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de l'occasion que vous m'offrez. Il y a lieu, en toute honnêteté, reconnaître qu'il y a eu opacité dans la gestion des programmes de saute-mouton. Là, ce n'est pas un secret de Polichinelle, c'est la vérité en face, parce qu'il faut rappeler aux amis que, selon le contrat entre la République démocratique du Congo et les entreprises qui avaient gagné le marché, ces travaux allaient prendre fin à partir du mois de décembre, donc pour le dernier saut des moutons, donc le mois de décembre. Le premier allait prendre fin à partir du mois de septembre de l'année passée. Or, il y avait un décaissement qui avait déjà été effectué par le gouvernement et on s'est rendu tous compte que le travaux n'avançait pas. Et Pierrot, et c'est ce qui a poussé même l'intervention de la justice pour que la justice puisse entrer en danse. Et moi, je pense, contrairement à ce que Israël a dit, que je salue en passant, c'est au contraire la présence de la justice qui fait booster maintenant les choses pour que les choses aillent le plus rapidement possible parce que on a eu à incarcérer certaines personnes. Et les autres se sont rendus compte que si nous nous comportons comme donc les uns ont eu à le faire, nous risquerons de nous retrouver aussi à Makala. Là, c'est de un. De deux, les raisons qu'on est en train de donner pour les sautes-moutons de Pongabi et celui de Lupin, mais moi, je pense que c'est un faux problème. Et même si, de ce côté, ça, c'est l'argumentaire développé par une seule partie. Jusque-là, l'OVD à qui on est en train de dire qu'il aurait demandé de suspendre les travaux, l'OVD ne reconnaît pas ça. Et c'est ça qui justifie même la détention de l'homme hein, qui avait soutenu, disant que non, j'avais reçu l'ordre de l'OVD. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les tronçons Pongabi, je pense que les embouteillages qui se posent à ce niveau-là n'ont rien à voir avec avec le quelconque travaux qui devrait être donc amplifié davantage les embouteillages. Lorsque vous prenez le tronçon IPEN, c'est la même chose. Donc si le travaux était lancé, c'est vrai qu'on devrait vivre, on devrait s'habituer comme nous sommes en train de le faire avec les endroits où il y a des sautes-moutons, mais néanmoins c'était une solution pour qu'à la prochaine, nous puissions avoir une solution durable. Mais lorsqu'on suspend comme ça, c'est cela que la justice a constaté qu'il y avait une sorte cette infraction qu'on a qualifiée, hein, donc d'abus de confiance. C'est comme ça. Moi, je suis en train de dire, le financement, à un certain moment, oui, parce que lorsque les gens disent qu'il n'y avait pas financement, c'est à la période où le cabinet du chef de l'État avait le programme, et avec le gouvernement Ilunga Ilukamba, c'est lui qui a récupéré maintenant la charge, donc ces affaires-là. Et c'est normal que lorsqu'on vérifie le financement qui était déjà lancé et que sur terrain, on voit que ça ne corroborait pas avec le montant déjà sorti, et raison pour laquelle même le ministre des Finances était inquiet, et surtout à ce niveau-là, chacun d'entre eux avait son discours. Pour le directeur du cabinet chef de l'État, les travaux étaient exécutés à 70%, pour le ministre, c'était à 57%, pour l'ancien conseiller stratégique, c'était à 65%, et c'est cette guéguerre-là qui a fait à ce que la justice puisse maintenant booster les choses, et là, nous saluons, parce que nous avons comme l'impression que lorsque les Congolais, on leur laisse une certaine liberté de faire un travail pour la République, la conscience n'est pas là pour travailler, mais il faut qu'il y ait toujours une pression judiciaire. Et là, nous nous sommes en train de saluer et nous voulons que, qu'on laisse la justice libre, qu'elle mène ses enquêtes jusqu'à la fin, au lieu d'assister à ce que nous entendons. Oh non, écoutez, il y a ceci, il y a cela. Non, non, qu'on laisse la justice, que la justice nous dise ce que chacun d'entre eux a eu à faire. S'il y a des faits infractionnels, que chacun réponde de ces faits.
Merci beaucoup, Adrien. Vous estimez que la justice a pu quand même faire que les choses soient boostées, et pour vous, il faut laisser la justice faire son travail. C'est elle qui doit déterminer la responsabilité de chacun, hein, parce que chacun peut tirer le drap de son côté. Mais vous avez suivi, Israël l'a dit bien en début d'émission, que quand le gouvernement a commencé à débourser l'argent chaque semaine, on voit quand même, c'est visible, on voit l'accélération des travaux dessous des moutons, par exemple, ici à Kinshasa, comment ça évolue. Merci beaucoup. Simon, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
On revient à vous, Israël Moutala. Vous avez suivi le premier groupe de compatriotes qui sont exprimés. Quel est votre point de vue?
Bon, mon point de vue, d'abord, c'est par rapport à Adrien. J'aimerais juste lui rappeler que la correspondance, en tant que journaliste, moi j'ai eu accès à une documentation. Il y a une correspondance de l'OVD qui parle justement de la suspension de travaux, pas de la suspension pour raison de mouchons, pour ne pas suffire la ville, sur le pont, sur les sauts de moutons que devrait ériger Safrica au niveau de...
Israël, on a des petits soucis de liaison avec vous. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu? On sait qu'il pleut sur la ville de Kinshasa depuis ce matin. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu? Parce que là, ça se détériore un peu.
Oui, allô? Donc voilà, là ça va?
Oui, c'est très bien, on peut aller, oui.
Oui, alors, il y a une correspondance claire, nette, limpide de l'OED qui demande à ce que les travaux soient suspendus pour des raisons pour ne pas asphyxier la ville par des bouchons. Donc la correspondance existe, c'est pas quelque chose qu'on invente. Non, il y a une correspondance. Donc ce sont des faits. Par rapport, justement, il a dit que les travaux avancés à cause de la justice. Non, c'est pas la justice. La justice ne va pas descendre sur les chantiers, la justice ne décaisse pas l'argent. Non, c'est le gouvernement lui-même qui a décaissé, qui a dit que chaque semaine, il va décaisser 3,5 millions $ américains. Pour l'avancement des travaux. Et donc, il a dit qu'il y avait un délai en décembre pour la livraison des sauts de moutons. Mais comment est-ce qu'on allait livrer les sauts de moutons au plus tard en décembre de l'année passée avec un financement qui oscillait entre 40 et 60% selon les actes? Ça peut pas, c'est pas possible. Donc, même malgré ça, c'est pas possible. Comment avec 40% de financement? Parce qu'il n'a pas dit qu'il y a eu 100% de financement. Donc, prenons même l'hypothèse la plus forte qu'il a émise, voilà, on met 70% de financement. Voilà. Comment est-ce qu'avec 70% de financement, on peut avoir 60% de l'ouvrage commandé? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il y a des problèmes que le gouvernement avait connus, des problèmes de trésorerie, des problèmes du gouvernement nouveau qui est entré, qui prenait en charge les choses, qui a fait que les décaissements n'ont pas suivi. Donc c'est aussi simple que ça. Et sur la question, par exemple, voilà, j'entends d'autres critiques qui disent voilà, que les sous-traitants pouvaient se financer. Et je suis bien d'accord. Vous connaissez les taux de nos banques ici. Ça veut dire que, voilà, c'est difficile. Ça veut dire pour prendre un crédit, ça veut dire qu'ils vont le prendre autour de 10-15% l'an. Et donc, c'est des sommes, c'est des millions de dollars, c'est énorme. Le crédit coûte encore très cher ici. Voilà pourquoi est-ce que le gouvernement réfléchit sur une centrale de risque pour faire baisser les taux d'intérêt ici. Donc, on n'est pas dans la même situation qu'en France ou en Occident, où on peut facilement accéder au marché de capitaux à moindre frais. Ici, c'est difficile, même pour des entreprises sérieuses comme Safricas, de prendre du crédit parce qu'il est cher. Mais ici, encore une fois, je souligne, le gouvernement s'était engagé à financer lui-même à 100% les travaux. Et donc, dès lors que le financement s'est pari, les travaux se sont arrêtés, c'est aussi simple que ça. Et donc, ce n'est pas une question de justice, non. Les travaux n'avancent pas parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Non, les travaux avancent parce qu'il y a des décaissements chaque semaine de 3,5 millions de dollars. Les gens qui sont en prison, même si les décaissements s'arrêtent aujourd'hui, les travaux vont s'arrêter. Donc la question de la détention provisoire, je souligne encore cette détention provisoire parce que ces personnes sont d'abord réputées, ils jouissent encore de leur présomption d'innocence. C'est une sorte de prétention du parquet qui a émis une hypothèse, qui essaie de la vérifier en détenant des gens provisoirement. Donc, ils ne sont pas condamnés pour quoi que ce soit. Et donc, voilà pourquoi nous demandons à ce que ce dossier soit examiné avec toute la sérénité qu'il faut. Constitue les véritables responsabilités, et la principale responsabilité, sans jeter la pierre à qui que ce soit, incombe au gouvernement. Je l'ai dit tantôt, que le gouvernement avait plusieurs priorités. Le gouvernement a plusieurs contraintes, et à un moment, il n'avait pas décaissé, et ce qui a fait que les travaux ont connu du retard. Et dès que ce problème a été levé, on voit que les travaux avancent sur tous les chantiers. Ils avancent très bien et très vite. Et donc, voilà, ça ne dépend pas de la justice. Au contraire, je pense que la justice, parfois, en allant un peu trop vite en besogne, elle complique les choses. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs.
Oui, mais quand vous dites que la justice allant trop vite en besogne, elle complique des choses, mais est-ce qu'on peut dire que la question pouvait être résolue autrement quand on a remarqué qu'il y avait de retard sans, bien sûr, aller à la justice? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça risque aussi de semer la confusion dans les têtes de la population qui dit, mais oui, mais on arrête les gens. D'un côté, on donne encore l'argent pour pouvoir continuer les travaux sans nous dire réellement si ceux qui sont arrêtés ont détourné les fonds. Est-ce que l'action de la justice, on peut dire qu'elle est aller vite en besogne pour que ça évite des mauvaises interprétations aujourd'hui dans l'opinion?
Donc, vous apportez un peu de l'eau à mon moulin, parce qu'on ne peut pas dire que des gens ont détourné, des entreprises ou des gens ont détourné de l'argent et en même temps les financer. C'est contradictoire. Donc quelqu'un qui vous dit qu'il a détourné et puis vous lui remettez encore de l'argent pour continuer l'ouvrage, non, c'est contradictoire. Et donc voilà pourquoi est-ce que nous, la question était de savoir. La question principale est de savoir à quoi étaient dus les retards, tout simplement. Dès lors qu'on dégage la raison principale, les raisons subsidiaires du retard, on a la solution. Ça veut dire que dès lors que le gouvernement au plus haut niveau s'est réuni autour du Premier ministre, autour du président de la République, ils ont dit voilà, travaux exécutés autour de 55%, financement autour de 55%. Voilà, désormais, plus de retard dans les financements, 3,5 millions de dollars chaque semaine. On a vu que ça, c'est parti. Donc, ce n'est pas l'action de la justice. Mais je pense que la justice doit faire son travail en termes de mener des investigations à charge ou à décharge, mais pas besoin de mettre des gens en prison, surtout, et je répète encore une fois, quand leur fuite n'est pas à craindre. Tant pour eux, détériorer des preuves ne sont pas à craindre. Donc voilà pourquoi vous allez retenir des gens, alors qu'il n'y a pas de... Parce que la détention, c'est quand vous avez des craintes que les personnes peuvent fuir, quand vous avez des craintes que les personnes peuvent détériorer des preuves que vous détenez. Mais ici, tout est clair. Les comptes sont là. Les PV, les matériels commandés sont là. Tout est clair. Voilà. Et donc, je pense que même le parquet lui-même gagnerait en transparence, en communiquant sur cette information. Il ne suffit pas de dire, voilà. Il faut vraiment bien articuler le dossier. Enfin, parce que moi, je dis ici, c'était de savoir quelle était la véritable raison des retards. Il y en a deux, principalement, les retards dans le décaissement par le gouvernement, et ensuite une lettre de levée qui existe, qui disait suspendre les travaux tel à tel endroit. Et même là où les travaux ont été suspendus, Gabi l'a si bien dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des études qui ont été faites. Non, on a commandé du matériel, il y a eu des études d'impact environnemental et des études géotechniques pour savoir c'est quel type de sol, la masse phréatique se trouve à quel niveau, voilà, les structures seront orientées de quelle manière. Mais il y a des études qui ont été faites. Et ça, c'est pas visible. Voilà pourquoi on dit il faut absolument de la sérénité autour de nos entrepreneurs.
Merci.
Parce qu'il y a du savoir-faire. Et les sauts de mouton, c'est des choses sérieuses. Nous avançons un peu dans les édifices publics, sur un autre palier, nous acquérons un nouveau savoir-faire, et donc voilà, tirons les leçons des retards et que le gouvernement puisse mieux planifier sa trésorerie pour que cela n'arrive plus.
On revient à vous. Le temps d'écouter Simon Tiloulou qui nous appelle de Matadi et John qui est à Likassi. Simon, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs éparpillés à travers l'univers ou le monde entier.
On vous écoute.
En fait, le problème est très bien posé. Seulement, c'est que les commets des mortels, nous devons savoir, c'est que le suivi ou le contrôle est un exercice très, très sine qua non pour aboutir à des résultats attendus. Lorsqu'il n'y a pas suivi ou contrôle comme tel, les résultats attendus seront biaisés. Parce que toutes les mesures de la bonne gouvernance seront totalement opaques. Et c'est pourquoi nous, au niveau de la société civile de la RDC, dont je suis coordonnateur provincial au Congo central, dirigé au niveau national par le maître Christopher Ngoï, nous pensons que il faudra, pour une bonne gouvernance de ces projets de 100 jours, il va falloir ce qui est passé. On a laissé cette tranche à la justice parce qu'on a compris que la bonne gouvernance n'y était pas. C'est pourquoi la traçabilité n'était pas visible, non plus la redevabilité n'était pas au rendez-vous, également la transparence était exclue. Et ceci étant, comme la justice a pris les taureaux sur les cornes, on laisse cette partie à la justice. Parce que nous avons besoin d'argent. Vous voyez, avec le coronavirus, le gouvernement a besoin d'argent. Et cet argent doit venir de ces gens-là qui ont détourné notre argent que nous avons laissé donner au gouvernement pour qu'il ait un budget et résoudre les problèmes de la population. Et que la justice fasse son travail. Maintenant, pour la partie restante, enfin qu'il y ait la traçabilité, la redevabilité et la transparence, les éléments de la bonne gouvernance, nous, au niveau de la société civile de la RDC, nous proposons ceci. Parce que c'est ça la maladie congolaise. Même des grands professeurs, des intellectuels sont toujours dans la posture de poser les problèmes et non de proposer des solutions. C'est pourquoi nous, au niveau de la société civile, nous sommes plus dans la proposition des solutions. Qu'il y ait une commission d'évaluation chaque semaine, on met une commission d'évaluation qui va voir l'ensemble des problèmes. Parce que l'impression souvent qu'on donne quand on suit les médias, comme si les 100 jours ne concernaient que Kinshasa. C'est pourquoi on parle souvent de sauts de moutons, tout ça qu'on sort. Mais les 100 jours concernent toutes les provinces de la République. Et que la commission d'évaluation hebdomadaire qui doit être mise en place doit avoir des jours. Il faut qu'il y ait les membres de la présidence, les membres du gouvernement, les membres de la société civile et les entreprises engagées dans l'exécution. Aussi la presse. Quand on prend les radios qui font l'honneur de ce pays. Nous avons Okapi, Diop Congo, on prend ces journalistes pour qu'à chaque évaluation fin de la hebdomadaire, qu'on nous fasse un compte rendu de ce qui a été débloqué comme fonds, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Comme ça, la population qui est le pourvoyeur des moyens est mise au courant de comment on utilise son argent. Quand vous prenez le cas du Congo central, dans le programme de 100 jours, il y avait l'électrification d'un Kamba, c'est fait. La route Kamba-Mbanzangungu a pas de tortue. La route Boma-Mwanda, presque finie. La route Ngidinga-Popokabaka, encore en pensée. L'électrification de le territoire de Luozi, ce territoire qui est plus vieux que la ville de Kinshasa. C'est encore en noir. La route Manterne, c'est là où on a enterré ou enseveli le premier président noir de la République démocratique du Congo. Une route dans un cas d'impraticabilité grave. C'est pourquoi le président de la République démocratique du Congo avait pris cette route en compte. Heureusement, aujourd'hui, le vaillant gouverneur de la province a fait un effort pour lancer le débit. Sinon, depuis ce temps, rien n'était fait. Et le gouverneur, que Dieu le bénisse, il a pris le taureau sur les cornes, il a lancé la semaine passée la route Popo-Kabaka. Depuis qu'on a construit quelques ponts, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Donc, il va falloir que cette commission réfléchisse par rapport à l'ensemble du programme des 100 jours de la République et non seulement de Kinshasa, pour que nous tous, nous puissions trouver un compte, parce que nous en avons besoin. Les provinces sont en moule, les routes n'en comptons pas, l'électricité.
Voilà. Alors là, Simon, ça dit qu'il y a, des choses qui devaient être faites en urgence. Vous avez déjà cité ce qui a été fait déjà dans le Congo central, mais il y a des choses que le gouvernement doit poursuivre, parce qu'il y a un programme du gouvernement qui a été défendu et adopté au Parlement. C'est différent. Mais pour vous, il ne faut pas seulement que dans ces débats, on se focalise sur le saut des moutons à Kinshasa et qu'on oublie d'autres programmes, d'autres infrastructures sûr dans le cadre des 100 jours à travers le pays. Merci beaucoup. Alors, John, vous êtes à Likassi, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Kati.
On vous écoute.
Bon, pour moi, j'ai donné raison au gouvernement dans le sens où les sauts de moutons paralysaient les activités des Chinois. Et comme c'était une urgence, c'est normal qu'ils puissent verser cet argent en vue de finaliser ces travaux et permettre aux Quinois de reprendre normalement leurs activités. Mais au moins, d'un autre côté, moi je crois que le versement de cet argent, étant donné qu'il y a des coupables, les gens qui sont accusés d'avoir détourné cet argent, je crois que étant le moment de Corona qui est chanté partout, le Congo a beaucoup plus besoin d'argent. Je crois que on devait économiser et mettre la main sur les détourneurs en vue de maximiser les recettes que le pays a besoin. Mais je sais que comme nous connaissons les coupables sont connus.
Alors, rappelons, John, qu'on n'a pas encore désigné les coupables, parce que les gens qui sont détenus, ce sont jusqu'alors des présumés. Il n'y a pas eu, les enquêtes n'ont pas conclu, n'ont pas été jugées jusqu'alors, ils n'ont pas été jugés. Il y a des enquêtes qui sont en cours, mais on ne peut pas déjà dire qu'ils sont coupables. Mais pour vous, vous estimez qu'on a besoin d'économiser l'argent, c'est important que le gouvernement donne la suite d'argent. Mais pour ceux qui sont détenus, on ne peut pas encore dire aujourd'hui qu'ils sont coupables, parce que la justice n'a condamné personne. Ils le sont encore à titre préventif. Merci beaucoup. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Félicien. Oui,
Pierre, bonjour à vous et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, mais moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce dossier. D'abord, on a dit que c'était urgent, on ne peut pas faire d'appel d'offres. Et après, le travail urgent, on ne surveille pas, on ne contrôle pas et on vient se réveiller plusieurs mois après. On constate que rien n'a été fait. Tout le monde monte au créneau, même l'IDP, le parti au pouvoir, dit qu'on a donné l'argent, mais le travail a été fait à 30% et tout ça. Et c'est le ministre des Finances qui refuse de donner encore de l'argent pour qu'on achève les travaux. Et on dit non, il faut que la justice se saisisse. La justice se saisit, on arrête les gens, on dit qu'ils sont déjà en prison, et l'enquête continue, et le jugement continue. Aujourd'hui, on apprend qu'on a encore donné de l'argent pour terminer les travaux. Et nous ne pouvons pas comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Les gens sont en prison, on a donné de l'argent à qui pour terminer les travaux, et puis après la justice va faire quoi? Où est la transparence dans tout ce que nous avons entendu, nous avons vu et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il y a vraiment un dossier compliqué, un dossier flou qui ne devrait pas relever de ce régime et ce gouvernement de l'alternance. Il faut qu'on éclaire le peuple, que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe. Si nous sommes si les voies du passé où nous avons tracé une nouvelle voie avec l'alternance, qu'on nous dise, mais qu'on ne passe pas le temps à nous distraire. Il y a beaucoup de routes à Kinshasa, des routes qui devaient être construites pour essayer un peu d'aérer la circulation. On n'a jamais pensé à ça. Et nous tournons autour de sortes de moutons qui étaient prévus pour les 100 jours et maintenant ça va faire pour tout un mandat parce que nous sommes sur le troisième trimestre de la deuxième année du mandat. Donc moi je pense que les autorités que nous avons élues doivent prendre conscience de la situation. Ils ne doivent pas continuer comme par le passé.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. On va écouter Marcel qui est en Boujmaï et revenir à notre invité, je crois bien, pour conclure cet échange. Marcel, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes en Boujmaï au Kassai Oriental. Bonjour, Marcel.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
J'ai une petite contribution sur les travaux des 100 jours de notre président de la République. Alors, le tout premier point, c'est la procrastination qui a animé dans le chef de ceux qui devraient s'acquitter du travail du garant de la nation. Il pensait peut-être que les travaux allaient se faire d'eux-mêmes aussi longtemps qu'il fallait mettre la main à la pâte et s'activer pour que notre ville puisse rayonner. Et le deuxième point alors, c'est le manque de suivi sur terrain. Il fallait à chaque moment refaire l'évaluation, comme l'a bien sûr souligné notre auditeur de quelque part. Et pour finir, les Congolais aiment travailler seulement s'il y a un œil vigilant ou regardant. C'est ça ce qui peut vraiment améliorer ces travaux-là. Et nous qui sommes peut-être en province jusque-là, nous sommes en train de souffrir totalement. Il y a parfois sur la route numéro 1, ici à Moutumaï, sur le ravin Tchamba, si vous y passez, c'est vraiment lamentable. Et peut-être d'ici là, on sera coupé de communication entre l'Omami et la province du Kassai Oriental, et surtout la ville de Moujimaï qui est totalement enclavée. Mm-hmm. Nous sommes en train de nous lamenter pour voir dans quelles conditions cela peut se réaliser. C'est ça ma petite contribution que j'avais, cher journaliste.
Merci beaucoup, Marcel. On estime que le gouvernement pourra, bien sûr, il y avait ces programmes d'urgence de 100 jours, mais il fallait qu'il y ait la poursuite avec le programme du gouvernement, et on estime qu'il y ait les infrastructures comme en Boujimaï. La question pourra être réglée. Mais je crois qu'on va terminer avec Yves qui est ici à Kinshasa, à revenir à Israël Moustala pour conclure cet échange. Yves, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, la radio Okapi. Bonjour à l'invité.
On vous écoute rapidement, oui.
Bon, moi je pense qu'il y a eu effectivement opacité dans la gestion de fonds qui ont été alloués pour l'exécution de ces travaux, parce que vous savez que aujourd'hui dans notre pays nous avons manqué le sens de la parole donnée. Les entreprises qui ont été intéressées ont avoué sur la place publique à l'échangeur les jours du lancement de ces travaux qu'ils avaient reçu le décaissement et que les fonds leur avaient été loués que dans 3 mois tout simplement. Les activités, sinon les travaux allaient être exécutés, mais aujourd'hui nous sommes déjà à une année. Et de deux, vous savez, le président de la République lui-même, lorsque dans un conseil des ministres, il décide, il instruit les ministres à la justice afin de pouvoir saisir le ministère public pour des enquêtes, etc., etc., et que aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui sont en prison. Moi, je pense qu'on ne peut pas revenir pour dire, voilà, il n'y a pas eu opacité dans la gestion. Parce que, vous savez, même lorsqu'on parle de personnes qui sont envoyées en prison pour dire, non, ils ne sont pas responsables, etc. Vous savez, monsieur JR, lorsqu'on envoie quelqu'un en prison, lorsqu'on place quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire qu'il y a une condition fondamentale que l'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a eu indice sérieux de culpabilité. S'il n'y a pas un but sérieux de culpabilité, un ministère public ne peut pas envoyer une personne en prison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des suspicions extrêmement graves contre ces personnes. Voilà pourquoi on les envoie en prison. Sinon, on ne peut pas les faire, surtout dans un dossier aussi sensible comme celui-ci. Et ils ont le moyen de défense. Donc, vous comprenez qu'il y a eu effectivement l'opacité dans la gestion de ces dossiers. Voilà pourquoi certaines personnes se trouvent aujourd'hui en prison, évidemment. Voilà. Et,
alors, voilà, faudra-t-il que la justice puisse aller vers la fin? Merci beaucoup hein, aux uns et aux autres. Nous revenons à vous, Israël Moutala. On peut conclure cet échange. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. La poursuite des travaux, vous l'avez dit, le gouvernement décaisse l'argent et puis on continue à le faire. D'un côté, il y a ceux qui sont détenus au niveau de la justice, mais on estime que ce soit pour la justice, que ce soit pour les travaux, on pourra bientôt arriver à éclaircir la situation et que surtout les travaux se terminent et que si ceux qui sont arrêtés sont blâchés, qu'ils recouvrent leur liberté.
Juste dire que il y a beaucoup d'amalgames. L'opacité, allez.
Oui, on vous écoute, oui.
Oui, l'opacité n'a jamais été, n'est pas un crime. L'opacité, ça veut dire absence de transparence. Qui a demandé des comptes qu'on ne lui a pas donné? Ça veut dire que le programme de 100 jours est un vaste programme qui concernait toutes les provinces et tous les secteurs. Infrastructure, éducation, santé, et logements sociaux et tout ça. Voilà. Mais ici, je parle des dossiers qu'on a lus. Ça veut dire que sur les sauts de mouton, et particulièrement sur certains sauts de mouton, dont on a dit qu'ils étaient à l'arrêt pour telle ou telle raison. Et ici, on a dit clairement, et je le répète encore, que pour les sauts de mouton de Lupin et de Pontabu, il y a une lettre de l'OVD. C'est un fait. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, le maître d'ouvrage délégué demande au sous-traitant d'arrêter, et le sous-traitant ne peut pas en faire un fatigue et dire non, je continue. Non. C'est lui qui a commandé les travaux, lui arrête pour des raisons de bouchon, on arrête. Donc, c'est justifiable, c'est traçable parce qu'il y a une correspondance. De deux, voilà, on a un retard dans l'érection de ce mouton. Oui, mais le gouvernement lui-même, pas une autre personne, toutes les instances du gouvernement se sont réunies, ils ont dit, à date telle, en février, c'est pas loin, ils ont dit que, moi, globalement, 55% de décaissement. La question est simple, comment avec 55% de décaissement, on peut arriver à livrer 100% des ouvrages. C'est impossible. C'est simple que ça. C'est mathématique. Alors, voilà pourquoi moi je dis clairement que les retards sont essentiellement dus pour Safricash. Un dossier qu'on a épluché, on a lu les correspondances, on a lu les contrats, on a épluché le compte rendu du gouvernement. Et par rapport à ça, les deux raisons majeures sont retard de décaissement et puis une lettre de l'OVD sur la suspension des travaux. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour ça, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison pour ça, là où il n'y a pas de crâne de fuite. Sur les indices de culpabilité, sérieux, donc voilà, ce sont des présomptions. On sait que tous les procès pénaux ne finissent pas par une condamnation. Ça veut dire que le ministère public se trompe, et se trompe parfois énormément. Et donc, moi, je pense que ici, dans notre pays, il y a eu plusieurs rapports qui ont démontré que, souvent, il y a plusieurs détentions provisoires qui ne sont pas justifiées. On peut bien mener les enquêtes tout en laissant les gens en liberté.
Merci.
Et voilà.
Voilà, merci beaucoup Israël Moutala. Vous avez commenté avec nous ce sujet. Vous êtes journaliste et directeur général du site 7sur7.cd. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à vouloir commenter ce sujet. Mais nous poursuivons le débat sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui était la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Tati Mapoukou et J.R. Lungembo. On va se retrouver le lundi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais cette émission est aussi sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.